Forza Motorsport 3 en exclusivité sur Xbox 360 vous présente le podcast de Gameblog.fr. Et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction, podcast 118, aujourd'hui, et oui, une semaine de décalage pour le bilan de l'actualité du mois d'octobre 2009. On l'a fait un petit peu exprès car il y avait tant de choses à dire, on avait envie d'avoir un petit peu plus de recul, et puis l'occasion aussi d'être bien dans l'actualité justement avec ce podcast, la semaine dernière, dédié à Tim Schafer, le créateur de Brutal Legend et d'autres titres bien évidemment. Alors aujourd'hui, pour ce bilan du mois d'octobre 2009 qui a été particulièrement riche, vous allez le voir, eh bien je suis accompagné par Julo, mais aussi par Pia, Raon, autour de notre table rouge laquée, incroyable, complètement céleste cosmique. Mademoiselle.
Ah, mademoiselle.
Ouais, je l'ai fait exprès pour voir si tu réagissais, Pia. Mademoiselle.
Oui.
Mais c'est madame.
Oui, c'est même pas mademoiselle. Plus, c'est vrai. Madame, Pia. Voilà, messieurs, eh bien, on est parti, on va commencer, vous le savez, le bilan du mois, chaque fois. Eh bien, on va commencer avec votre best-of, les actualités que vous avez préférées, que vous avez élues chaque semaine. Vous le savez, le samedi, c'est le best-of, vous pouvez voter. Et vous avez décidé d'élire Nintendo, la grande phrase, celle de Monsieur Iwata, président de Nintendo, qui déclare « Nous avons échoué avec la Wii ». C'est quand même une phrase, je trouve.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui auraient bien aimé échouer pareillement.
Exactement, quand on sait qu'encore, rien que cette année, ils vont faire des bénéfices, certes en baisse, mais de plus d'un milliard d'euros, c'est quand même assez colossal. Je vais vous donner la citation exacte. La Wii a calé, nous avons été incapables de sortir continuellement de grands jeux et nous avons laissé retomber la bonne ambiance dans le marché du jeu vidéo. Une fois que l'on a perdu son élan, cela prend du temps pour s'en remettre. J'ai envie de dire que c'est quand même assez rare d'entendre de la part d'un patron d'une boîte aussi élevée autant de franchise.
Quelle lucidité.
Ouais, Julo.
Bah c'est vrai que voilà, c'est le...
C'est la lucidité de l'argent, hein. Comme il a gagné plein d'argent, il peut se permettre d'être lucide à ce niveau-là.
Ouais. Il peut se permettre de s'autocritiquer, ouais. Voilà, sachant qu'il y a eu le succès avant. Donc,
mais est-ce que c'est pas too much quand même de dire ah, la Wii a échoué?
Si, c'est fort. Bah, mais pour sortir de son contexte comme ça, si tu prends juste ça, oui, il y a le reste de la phrase. Et c'est vrai qu'ils ont échoué dans le fait de livrer des jeux pour le public de base, c'est-à-dire les gamers, voilà, qui se sont sentis délaissés, oubliés.
D'un autre côté, c'est pas un problème nouveau pour Nintendo non plus. On l'a connu. Comment avec ça? D'autres machines.
Bah, la GameCube.
Ces difficultés à livrer des jeux. Alors, un peu gamers.
Non, mais sur GameCube, c'est différent quand même. Sur GameCube, Nintendo livrait quand même des jeux avec un bon rythme, etc. Le problème de la GameCube, qui existe aussi sur Wii, c'est que c'est l'abandon un peu des éditeurs tiers, etc. Ouais. À la Wii, c'est rajouté le côté un peu casual de tout le line-up de la console qui fait que même les éditeurs tiers qui se sont mis à produire des jeux en masse, hein, ce qui n'était pas le cas sur GameCube, ils ont fait des jeux casual à mort en exploitant le nouveau public, etc.
Et
que
même
Nintendo s'y est mis, quoi.
Ben alors, le problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeux d'éditeurs tiers sur Wii que sur les consoles passées,
bah ouais,
en tout cas la GameCube, en l'occurrence c'est la Nintendo 64 de chez Nintendo. En revanche, apparemment il y a un gros problème de vente, hein. Les jeux éditeurs tiers ne se vendent pas, c'est vraiment les jeux Nintendo qui cartonnent.
Il n'y a que quelques rares exceptions de jeux d'éditeurs tiers qui arrivent à se hisser sur des chiffres aussi stratosphériques que ceux de Nintendo, mais encore une fois, il faut relativiser aussi par rapport aux chiffres de vente globaux, c'est-à-dire que tu prends des Wii Fit, tu prends des Mario Kart, tu prends des Wii Play, etc., c'est des chiffres mais atmosphériques. Wii Sports, le premier, c'est plus de 50 millions. C'est plus de 50 millions d'exemplaires, le premier Wii Sports, quoi. C'est juste colossal. Sur une autre console, tu fais 2 millions, t'es content, quoi.
En bundle, ouais.
Oui, mais d'accord, mais même.
Mais justement, quand on a vendu la Wii, c'est plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde, dire que c'est un échec. De son côté, la PS3 et la Xbox 360 en cumulé,
ils ne sont pas
aux chiffres de la Wii. Donc, quand même, c'est presque. Est-ce que c'est pas presque un peu injurieux pour les.
Mais c'est ça, c'est
pour les autres.
Bon, on aurait peut-être pu faire mieux, mais vraiment.
Ah, mais je pense que Nintendo a toujours un coup d'avance, et surtout depuis qu'Iwata est là. Iwata, c'est pas le dernier des imbéciles.
Ah,
et,
non, pas trop, non.
Il sait très bien que, en ternissant l'image qu'ils ont construit finalement avec la Wii. C'est-à-dire même
crois qu'ils préparent le terrain pour la suite.
Exactement, parce que je pense que même le nouveau public se rend compte. Vous avez tous autour de vous des gens qui ont une Wii, qui sont pas gamers à la base, qui ont joué à Wii Fit pendant une heure, qui ont arrêté d'y jouer, puis qui rachètent un jeu de temps en temps. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils achètent des jeux pareils, genre qu'ils veulent gagner des millions ou je sais pas, etc. Des trucs qui prennent la poussière. Chez nous gamers, elle prend la poussière aussi, et ça marque, et quelque part ça.
Ah bah le concept raclette.
Ça pourrit l'ambiance, quoi.
Genre, bien présent. Ouais.
Mais c'est ce qu'il dit, il parle d'ambiance.
Et là, à mon avis, il s'inquiète de l'image qui est en train de se transformer peut-être chez les gens, quoi.
Mais il y en a d'autres effectivement qui disent qu'ils ont du mal à et qu'ils auront du mal de plus en plus à reconquérir leur base première, le socle qui reste celui des joueurs.
Ouais.
Parce que même pour la GameCube ou la N64 ou d'autres, les joueurs n'ont jamais été vraiment perdus à la cause de Nintendo. Mais maintenant, depuis le fameux E3 de la zéro annonce,
dès la Nintendo 64, ça a commencé à baisser.
Bah ouais. Là, ça va être un petit peu difficile, mais bon, ils ont quoi ? Ils ont Super Mario Galaxy 2 qui va arriver.
New Super Mario Bros. Wii aussi.
Ouais, mais à part ça. Un peu gamer, un peu sympa.
Il y aura un Zelda forcément, mais oui. Il n'a pas encore été annoncé.
Un peu gamer, il y a quand même. Moi, je trouve que cette fin d'année et début de l'année prochaine, ils sont un peu réveillés. Il y a quand même plus de jeux des éditeurs tiers pour le public gamer. Malheureusement, c'est pas encore assez. Puis c'est des jeux qui marchent pas, quoi. Donc
tu penses au Resident Evil, par exemple, le shooter.
Alors ouais, le shooter, mais le premier était quand même malheureusement une licence gamer avec un gameplay beaucoup trop grand public. Non, je pense à Dead Space Extraction, à Mad World, de tous ces jeux-là qui marchent malheureusement pas suffisamment. Il y a Jew on the Grudge, donc qui est sorti il y a quelques semaines. Mm-hmm. Bon, tous ces jeux-là, ils sont quand même.
On se souvient de Mad World aussi, Mad World qui a pas marché.
Ouais, qui était génial.
C'est même pas qu'il a pas marché, c'est qu'il s'est méga planté.
Sur Wii aussi, il y a Oh Boy and His Blob qui a l'air mignon, assez sympathique. Et là, on l'a vu il y a quelques jours au Micromania Game Show. Personne ne faisait la queue.
Personne
les présentateurs
jouait, ouais.
étaient tout seuls avec leur jeu. C'était
mais ça va
effrayant.
Être pareil avec Muramasa. Hein. Chaque événement type FJV, Micromania Game Show, on a une vingtaine de gamers hardcore qui sont super contents et qui kiffent le beat'em all en 2D qui assure du monde sur le stand. Mais en réalité, Muramasa, va y avoir le microcosme des testeurs de jeux vidéo qui vont surkiffer, puis les autres, ils vont pas l'acheter. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'il faut pas se faire d'illusions.
Bah justement, on va enchaîner un petit peu avec la suite de ce best-of, les news que vous sélectionnez tous les samedis matins, vous le savez. Vous avez la possibilité de voter pour élire la news de chaque semaine. Eh bien, t'en parlais il y a quelques instants, Pia, Dead Space Extraction, eh bien, le fiasco, on avait titré, car la première semaine aux États-Unis de la vente, c'était plus de 9000 exemplaires, eh bien, ça n'a pas augmenté par la suite, puisque je suis allé chercher un petit peu les chiffres. Au bout de plus d'un mois, de 5 semaines, c'est 30 000 ventes, un petit peu moins même de 30 000 ventes. Quand on sait que Dead Space, quand même, a été vraiment reconnu comme un grand nom du survival horror, et qu'en plus
par la critique en tout
par
cas
la critique, mais a finalement bien marché sur le long terme sur les consoles
next-gen. Il s'est rattrapé, mais enfin il a pas fait un carton monumental non plus.
Mais le nom s'était bien installé, puis Dead Space Extraction était très bon, Pia, tu l'avais testé.
Ouais, c'est vraiment dommage, parce que ça c'est un bon jeu avec une base, on va dire, très gamer, mais qui permet en plus, grâce à son mode de joueur en coop et sa maniabilité vraiment hyper instinctive, de jouer avec typiquement la petite copine pas gameuse, etc. quoi. C'est vraiment dommage.
Donc comment vous l'analysez un petit peu, c'est genre la licence Dead Space qui ne prend pas, ou c'est on ne peut pas vendre d'autres jeux sur Wii que des jeux Nintendo
c'est
Mario,
quoi. Moi je pense que la Wii, ça s'adresse à un public qui n'achète pas de jeux vidéo. C'est le problème auquel les éditeurs n'ont pas pensé, c'est-à-dire que vraiment la personne qui va acheter une Wii comme un produit de consommation culturelle de base, il va acheter sa Wii avec Wii Sport ou avec Wii Fit, il va peut-être revenir acheter Mario Kart 6 mois, 1 an après, et puis ensuite il va comparer, pour 20€ il a un DVD, pour 60€ il a un jeu Wii. Alors en plus, un jeu Wii avec des aliens et un gun, quand lui il voulait la Wii pour avoir du Wii Fit, jamais il va l'acheter, Les gens ne savent pas que contre 20€ un DVD où on a une heure et demie, avec un jeu vidéo ça dure plus longtemps. D'ailleurs les jeux sur Wii sont très jetables.
Rare.
Ouais, mais comment est-ce que t'expliques que justement t'as quand même un pack son de Wii qui ont été vendus, elle se présente a priori à l'image d'une console un peu familiale qui est faite pour faire jouer un petit peu tout le monde. Il y a des enfants dans ces familles, même ces personnes qui jouent à Wii Fit, etc. Pourquoi les enfants
Ne joue pas à Dead Space Extraction. C'est un jeu plus 18. Voici la réponse.
Merci Raon.
Non, mais pourquoi les enfants ne
Mais parce que les enfants gamers, ils vont avoir la DS avec les Pokémon. En vrai, DS avec des Pokémon. Et 2-3 ans après, il va demander une Xbox 360 où il va jouer encore avec la PlayStation 2. Ouais. Ah, je te jure, Raon.
Non, mais sans doute, mais je posais la question tout à fait naïvement. Mais
Pour rebondir, Julo.
Non, c'est pas pour rebondir. Pardon. Non, pour vous dire à quel point c'est catastrophique, 30 000, c'était le score de Shenmue 2 sur Xbox quand il est sorti aux États-Unis.
C'est incroyable.
Ouais. C'est
voilà.
Ouf. Hein.
Pour
resituer dans son contexte historique
l'échec commercial du jeu.
Ouais, c'est vraiment pas assez en tout cas pour pouvoir espérer pouvoir vraiment continuer la série, la licence. Ça bat un petit peu de l'aile quand même, même si Dead Space 2, lui, devrait arriver en 2010 sur les consoles next-gen, sur PS3.
Là, ce serait, 360
et là, faudra qu'il marche celui-là quand même.
Oui.
Parce que Electronic Arts, au bout d'un moment.
Mais on ose espérer qu'il va marcher en général avec un premier qui commence à faire le buzz autour des early
adopters. On ose espérer surtout qu'il sera bon. Voilà. Dans la veine vraiment du premier.
Oui, bien sûr. Oui.
Parmi les best-of, toujours, vous le savez, eh bien, c'était il y a 10 ans, c'était le 14 octobre 1999. la Dreamcast, tu l'évoquais furtivement.
Oui, parce que
Gilo.
J'ai décidé que j'allais citer deux fois Shenmue dans ce podcast.
Voilà.
Ça y est, c'est fait.
Et bien justement, elle a 10 ans, la Dreamcast, maintenant, le 14 octobre 99, elle sortait en Europe. On va pas revenir très longtemps dessus, mais c'est tellement de souvenirs pourtant. C'est une console qui nous a, qui a bercé vraiment. Et pendant plusieurs années, elle a pas eu le succès que beaucoup de gamers auraient espéré. Pourtant, il y a eu énormément de gros jeux. Bien évidemment Shenmue, mais tant d'autres. Hein, le premier Sonic Adventure était énorme.
Space Channel 5.
Jet Set Radio.
Soul River.
Chuchu Rocket.
Soul River est sorti sur PlayStation aussi.
D'abord, merde.
Code Veronica.
Ouais. Grandia.
Soul Calibur.
Sky of Arcadia.
Sky of Arcadia.
Ouais,
incroyable.
En fait, c'est ça.
C'était le niveau général de la prod Dreamcast était vraiment très haut. Il n'y avait pas vraiment tant de mauvais jeux que ça par rapport aux bons jeux. Quoi.
La proportion Jet Set Radio, on l'a cité aussi.
Ouais, ah si, j'avais un jeu bien pourri.
Ah
ouais, un espèce de beat'em all pourri avec
trois personnages.
Non, t'as
pas retenu le nom en fait.
Non, ouais, j'ai même pas retenu le nom. Ouais.
Berserk, non,
non. Berserk, Soul Blade. Ah non, oh là là, qu'est-ce
que c'est. Oh là,
quelle horreur.
J'ai rien dit. Je n'existe plus.
Ton fan club vient de s'effondrer.
Je n'existe plus.
En tout cas, vous l'aurez compris, ici à Gameblog.fr, une pensée vraiment assez émue pour la Dreamcast. Avec
son petit visual memory
card.
Mais oui,
les VMU, c'est ça, ouais. C'était plein d'innovations.
À chaque fois, on retombe dedans, mais comme en 40. Hein.
Mais ouais. Ouais. Non, mais quand on jouait à Soul Calibur, le petit personnage apparaissait sur l'écran de la visual memory. Et puis, il bougeait. Moi, je me rappellerai toujours de Ivy, mon personnage préféré. On voyait son petit nombril, elle donnait un petit coup de fouet. Schlack, à chaque fois que. voilà.
Écoute, ça tombe bien que ce soit une fille qui en parle. Hein. Oui. Ça permet de nous dédouaner, nous. Et ça nous fait plaisir.
Ivy, premier personnage avec les cuisses, les seins et les fesses qui bougeaient en temps réel, il faut le dire.
C'était très important.
Un vrai progrès pour le jeu vidéo.
Exactement. Allez, on finit ce best-of que vous avez sélectionné sur Gameblog.fr avec Beyond Good and Evil 2, l'annonce qu'il confirme, point d'interrogation. Ouais. Et oui, on a découvert sur un site internet une offre d'emploi pour un senior game designer et c'était directement titré pour travailler sur le jeu BGE2.
Ben oui, c'était sur le site d'Ubi, recrutement d'Ubi. Une annonce pour un senior game designer qui était parue il y a assez longtemps. En fait, on l'a vue bien après qu'elle soit parue. Elle était toujours en ligne. Et donc,
et
dans l'intitulé du job, il était très, très clairement spécifié Beyond Good and Evil 2. Donc,
ça fait quand même un faisceau de certitude.
Mais on sait qu'il travaille dessus. C'est ce que
je
disais la dernière fois.
Il est en pause actuellement, mais en tout cas, il ressurgira d'ici quelques mois.
Mais ça serait bien qu'il commence à nous dire oui ou non, au moins officiellement. Merde. Bah,
peut-être que les équipes de Michel Ancel travaillent actuellement aussi sur d'autres jeux. On sait qu'il y a les Lapins Crétins qui sont développés chez Ubisoft Montpellier. Et puis, il y a d'autres titres aussi. On ne peut pas encore parler
écoutez-le,
mais...
la qui tease.
Ouais. Ouais. Mais bon, BGE2 sera probablement en actualité d'ici quelques mois. Allez, croisons les doigts en tout cas. Vous le savez, dans les podcasts de bilan, à chaque fois, on parle aussi de l'homme du mois et on va passer rapidement dessus. On se reconnecte un petit peu rapidement avec la Wii. Miyamoto, Shigeru Miyamoto, le créateur des Mario, des Zelda, vous le connaissez tous, qui a confirmé quand même à demi-mot l'arrivée... peut-être imminente d'une Wii HD, alors c'est un secret de polichinelle, mais là carrément, lorsqu'il parle de « je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal avec le joli graphisme, et si je suis un consommateur qui possède une télé HD, j'aimerais pouvoir m'essayer à des jeux disposant eux aussi de beaux graphismes ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Wii n'en a pas ? Je ne sais pas. Et comme nous avons vu le taux de pénétration des télé HD augmenter, nous allons voir des jeux vidéo et des jeux Nintendo suivre cette progression technologique. Vous l'aurez compris, on n'apprend pas grand-chose. C'est une certitude que Nintendo travaille sur une console
en
haute définition.
C'est génial, on va pouvoir jouer à Wii Fit en HD.
Ouais, mais quand c'est même nul. Le fait que M. Iwata, finalement, critique un petit peu sa propre machine, le fait que M. Miyamoto commence à faire des sorties et commence à parler de la HD, est-ce que ça ne veut pas dire que les choses sont en train de s'accélérer ?
Et t'as oublié un autre fait,
Julo.
C'est que les ventes de la Wii stagnent.
Mm-hmm. C'est ça le
et
plus important.
C'est probablement
en fait.
Le plus important parce que qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? On l'a vu avec la DS depuis qu'elle est sortie.
Tu veux dire les DS ?
Les DS, justement, on en est aujourd'hui à la troisième et la quatrième qui vient d'être annoncée.
On va revenir dessus dans quelques
instants. Dès qu'il y a, si tu veux, une dynamique qui s'effrite un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, il y a une annonce. Ouais. Et donc là, il serait. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'on en reparlera tout à l'heure de la nouvelle DS.
DSi LL.
Voilà, qu'il est annoncé si tôt, parce que la dynamique n'est pas encore complètement effritée.
Mais surtout que la DSi de base est sortie il y a vraiment très peu de temps.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a très peu d'écart entre les deux. Mais en même temps, c'est une offre pour un public différent. Mmh. Enfin, on reviendra dessus. Mais pour la Wii, c'est vrai que là, ils ont évidemment quelque chose dans les cartons et que voilà, cette déclaration de Miyamoto, elle veut tout dire, quoi. Mmh. Alors après, est-ce que ça va être juste une sortie HD aux derrière d'une Wii, ou est-ce que ça va être une vraie nouvelle Wii? Pourquoi pas complètement briser tout le truc, sortir
une nouvelle console.
Techniquement, ils ne peuvent pas faire, ils peuvent pas rajouter juste un module pour afficher la Wii en HD. D'une part, ça serait dégueulasse, et en plus, on voit comment on a déjà du mal à faire des jeux de qualité graphique, graphiquement, par rapport à ne serait-ce qu'un GameCube.
Donc toi, tu penses, ça veut dire des nouveaux jeux qui seront soit compatibles avec les deux machines, soit compatibles.
C'est une nouvelle machine.
D'autant que Miyamoto a aussi parlé de pour la prochaine, probablement qu'il faudrait qu'on fasse encore une plateforme encore plus petite, que ça prenne encore moins de place dans les foyers des gens, etc.
Moi, je c'est justement à l'opposé d'un développement technologique, parce que plus tu prends des composants et des architectures récentes, et plus ça prend de place. Il y a qu'à voir une PS3 quand elle est sortie, quand c'était énorme. La 360, c'est pareil, c'était une assez grosse console. Heureusement, elle était mieux designée, donc ça passait mieux. Mais
s'ils font une console plus puissante, je la vois plutôt au niveau des autres que largement supérieure aux autres actuels.
Oui, clairement. Mais c'est pas leur credo de toute façon de dépasser les autres au niveau
technologique. Pas dans la course à la technologie.
Mais par contre, il foutrait quand même un sacré bordel à la sortir maintenant.
Je les imagine pas sortir une nouvelle console de salon sans rétrocompatibilité déjà.
Oui, non, mais un bordel, je veux dire, dans le marché et dans la durée de vie des consoles actuelles, donc des consoles HD 360 et PS3. Quoi.
En tout cas, je sens que le prochain E3 risque d'être passionnant, parce que entre peut-être une annonce de Nintendo et enfin une vraie conférence Nintendo, le fait aussi que Microsoft va vraiment dévoiler tous ses projets sur Natal et qu'on en apprendra beaucoup plus, parce que là, on le sait, hein, au niveau de la communauté des développeurs et des joueurs, on en attend énormément. À quoi ça va ressembler, tous ces jeux? On a l'impression que c'est Minority Report qui s'invite enfin chez soi.
On attend la transformation, parce que tout le monde témoigne de l'intérêt, mais pour le moment
on veut voir
les applications.
Il y a pas des jeux. Rare travaille activement sur des jeux.
On sait que Fable 3 utilisera Natal aussi. On l'a appris très récemment.
On a vu toutes les déclarations des gros développeurs japonais, les Kojima, les Inafune,
qui
parlent vraiment du projet Natal. Donc à suivre. Et puis forcément aussi du côté de Sony, il y aura le.
Mais ils ont un peu tous tendance.
Le petit coup de
Miko, là. Oui, ils ont un peu tous tendance à dire oui, ça a l'air très bien, mais on attend de voir. Donc si tout le monde attend de voir, il y aura rien, tu vois. Ouais. C'est un peu ça le problème.
En même temps,
aussi,
il faut vraiment que ce soit hyper cohérent, hyper bien calibré, qu'on n'ait pas la fausse vraie bonne innovation. Et souvent dans les jeux vidéo, ils font quand même des gameplays classiques auxquels ils rajoutent des gadgets. On le voit notamment sur la Wii, quoi. Donc faut vraiment que Natal ce soit.
Mais il y aura une stratégie de développement déjà du fait qu'ils placent la caméra dans toutes les boîtes à partir du moment où ça sortira. Ça va être très très important. Et puis la tarification pour tous ceux qui ont déjà leur Xbox et qui veulent Natal, comment est-ce qu'ils vont se le procurer, quel bundle il y aura avec, à quel prix par rapport à ceux qui vont acheter une Xbox nouvelle et qui auront la caméra tout de suite avec, est-ce que Microsoft ira jusqu'à offrir la caméra
c'est ce qu'ils avaient plus ou moins dit, les nouveaux, elle serait incluse dans tous les nouveaux packs et après vendue avec certains jeux qu'il utiliserait, tu sais un peu comme ils font avec l'iToy aujourd'hui, avec le PlayStation Eye aujourd'hui
pour iPad,
pour quasiment rien tu l'as.
C'est une dizaine d'euros en plus, c'est pas grand chose.
Là ça serait peut-être pas 10 euros,
la philosophie en plus est totalement globale, puisque ça sera compatible aussi avec certains jeux PC, avec Windows 7, donc ça dépasse même le cadre de la simple Xbox. Ça a l'air très important, en tout cas vraiment dans la politique, la stratégie de Microsoft, clairement. Et ben on va suivre ça dans les mois à venir,
mais encore une fois, pardon, excuse-moi, contrairement à Nintendo, ils font peut-être une petite erreur de pas s'être réservé ça pour leur prochaine console quand même.
Moi je suis pas sûr, au contraire.
Ah ouais,
ça leur permet de ne pas lancer une nouvelle console si tôt que ça.
Tu penses que ça va rallonger la durée de vie de cette console dans le cycle général?
En tous les cas, c'est ce qu'ils veulent faire. S'ils le jouent bien, c'est le fait de lancer ça et donc toutes sortes de nouveaux gameplay associés pour les casuals.
Deuxième jeunesse
gamers,
à la console.
Et d'autant plus
ça leur permet de la marketer différemment pour des cibles différentes, en parlant plutôt de la caméra que de la console, ou plutôt du jeu et de l'expérience plutôt que de l'aspect gamer qu'elle a pour l'instant encore. Donc, parce que c'est des investissements tellement massifs de développer une nouvelle console, c'est.
D'autant qu'il a été évoqué aussi à l'état de rumeur, mais peut-être l'arrivée d'une Xbox Slim à l'image de ce que Sony a fait avec la PS3.
Couplé avec c'est pour ça que j'ai dit ça en fait, parce que tu faut que tu marques les esprits.
Ah,
il faut que ça représente quelque chose de nouveau en fait. Faut que ça soit juste l'accessoire d'un vieux truc, le nouvel accessoire d'un vieux truc.
D'ailleurs, pour revenir par rapport à ce que tu dis sur la Wii HD, c'est pour ça que je pense aussi qu'ils ont tout intérêt à sortir une nouvelle console, au moins d'aspect extérieur, parce que s'ils veulent reconquérir les gamers qu'ils semblent être conscients d'avoir perdu et regretter d'avoir perdu, il faut aussi de la même manière qui marque le coup, je pense.
Et ça va être passionnant à suivre,
carrément.
Mesdames et messieurs, on va suivre ça dans les mois à venir. Allez, on va passer maintenant au coup de cœur et au coup de gueule de la rédaction de Gameblog. Ce mois d'octobre a été bouillant. Avant de parler un petit peu des principaux jeux, des gros jeux, on va revenir dessus tout à l'heure. Et il y en a eu énormément, hein, de GTA, Ballad of Gethony, ADJ Hero, Borderlands, Forza Motorsport 3, iPad, Brutal Legend, Uncharted 2, Opération Flashpoint. On reviendra dessus. Puis les actus marquantes avec justement, hein, Julo, t'en parlais il y a quelques instants, l'annonce de la DSi LL, une nouvelle DSi beaucoup plus large. Les premiers indices concernant un GTA V, les nouvelles sorties de Nadine Morano et son fameux GTA 4, vous verrez. Et puis nos impressions sur Assassin's Creed 2, Modern Warfare 2, Bayonetta toujours plus sexy, la guerre que se livrent Sony et Micromania, Gran Turismo 5 en 3 Blu-ray peut-être. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, tout comme probablement un nouveau Prince of Persia. Et ben ça, ce sera dans cette troisième partie du podcast. Maintenant, on va vraiment parler des coups de cœur et des coups de gueule. On va commencer avec toi, Pia, puisque tu as eu la chance de rencontrer... quelqu'un d'assez particulier que tu apprécies. Il s'agit de Joe Madureira.
Madureira.
Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ce monsieur et de pourquoi on en parle aujourd'hui de manière jeu vidéo, parce qu'à la base, il n'est pas lié vraiment au jeu vidéo.
Ouais, alors Joe Madureira, il fait partie donc des 10 personnalités du comics qui ont le plus marqué le comic book de tous les temps. Il faut savoir que ever,
dis-moi que c'est Alan Moore le numéro 1.
Je pense, je ne suis pas certaine. Bon, il faut savoir que Madureira, à la fin des années 90, il a été embauché chez Marvel alors qu'il était encore lycéen pour travailler sur les X-Men. Et donc c'est à lui qu'on doit tous les graphismes de l'ère Apocalypse des X-Men quand ils étaient très post-apocalyptiques, un peu punk, etc. Et ensuite les tenues classiques qui ont été remplacées par la suite. Et donc il a toujours été considéré comme un génie du comics, du dessin. Au début des années 2000, toute fin des années 90, il a connu un virage énorme où il s'est vachement inspiré du manga et où il a créé sa propre série qui s'appelait Battle Chaser et qui n'a jamais terminé. Ouais. Donc c'est vraiment, ce mec est un génie, pour moi c'est une légende hein, depuis mon adolescence. Et il est surtout actuellement le cofondateur de Vigil Games, le studio derrière Darksiders Wrath of War, avec mon bon accent. Et donc j'ai pu le rencontrer.
Je ne te jetterai pas la pierre.
Vas-y, Julien, vas-y, dis-le.
Wrath of War.
Voilà. Et donc j'ai pu le rencontrer tout fin octobre pour parler donc de son jeu vidéo, de son parcours, de lui aussi. J'ai pu faire une très très belle interview qui sera donc qui est déjà sur le site à l'heure actuelle. Donc je tease un peu.
Non,
sur
ce sera demain.
Demain, donc voilà, demain sur le site, la très belle interview de Joe Madureira qui m'a fait aussi la plus belle dédicace du monde.
C'est vrai qu'elle est belle.
Elle a la
elle
super
est
classe.
Très belle, elle est ultra personnalisée.
Avec son email.
Avec son email perso.
Et des petits cœurs.
Des cœurs.
Non, mais c'est vrai,
c'est mon coup de foudre.
Tu pourras la mettre dans le blog ?
Ouais, d'accord, on voilà, va la photographier, petite... on va
en
la mettre dans le blog.
En floutant l'email du monsieur quand même, parce que sinon.
En floutant l'email du monsieur. Ah oui, ça c'est privé, c'est que pour moi. Je ne sais pas. Donc ça c'était mon gros gros coup de cœur.
Et t'en as un second aussi pour un jeu qui. Assez original, ouais. Qu'on n'a pas l'habitude de voir généralement tester sur Gameblog.fr, mais pour nous, ça nous paraissait important d'en parler. Il s'agit de La Maison du Style, qui a débarqué sur DS.
Tout à fait sur DS.
Particulièrement apprécié.
Alors, La Maison du Style, hein, la simulation de garde-robe de la DS pour filles, c'est génial. Je suis complètement accro. Je dois dire que j'ai arrêté de jouer à Left 4 Dead pour jouer à La Maison du Style.
Tu viens de perdre 30 000 fans.
Non, mais alors attendez, je tiens juste à dire que, à cause de La Maison du Style, j'ai vraiment rigolé. J'ai vu ça sur le forum il n'y a pas longtemps. Il y a quand même un lecteur qui a écrit. Ah mais c'est pour ça qu'elle a mis que 4 sur 5 à Borderlands, c'est parce que sinon elle joue à Wii Fit ou à La Maison du Style. Donc grosse dédicace à ce lecteur, merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi t'as apprécié à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a de fort dans
tendance.
Ce titre?
C'est peut-être surtout le premier jeu de ce type-là qui est vraiment bien fait.
Vraiment tendance.
Et qui se fout pas de la gueule du client, quoi.
Ouais, complètement. Il est bien réalisé, la réalisation elle est nickel, les personnages sont beaux, ils sont bien animés, le jeu il est passionnant, il est hyper dense, il y a beaucoup de choses à faire, de la gestion de stock, du mailing, des achats perso, du maquillage, des boutiques en ligne mais hyper développées avec un forum gigantesque, plusieurs villes, des bâtiments, des quartiers, des étages, enfin c'est incroyable. Il y a une interaction via le wifi.
Oui.
Il y a des
bâtiments avec des étages, c'est incroyable.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mode wifi ultra développé qui va permettre de vendre ses créations aux autres créatrices, de leur envoyer ensuite des mailings. Et puis plus de 10 000 références annoncées, donc vêtements, chaussures, gants, sac à main. Et en plus, du téléchargement de vraies saps, de vraies marques gratuitement. C'est génial.
Je vais vraiment te poser une question assez candide, mais est-ce qu'un mec...
Non.
Peu après...
non.
Voilà, très bien, merci.
Non.
Il y a des mecs qui aiment la mode.
Oui, alors un mec qui aime la mode. Voilà, John Galliano va kiffer.
Donc c'est vraiment pointu. Hein.
Non, c'est pas pointu, mais c'est fille-fille.
D'accord. Très bien.
Mais c'est Fifi bien fait, c'est pour ça qu'on en parle.
Et d'ailleurs, c'est pas petite fille, c'est pas je tiens à le dire. C'est vraiment adolescente, jeune adulte. C'est pas 13 ans, 14 ans, quoi. C'est 15, 16, 17, 25, je kiffe, hein, tous les soirs. Tous les soirs, les gars, tous les soirs.
Et nickel, et j'espère que ta collection prendra vie et qu'un jour on rentrera dans ta vraie boutique, non pas virtuelle mais bien réelle. Exactement, grâce à la maison du style. On va passer à ton coup de cœur, Raan. Il y a quelques jours, tu as eu la chance de partir avec Poufy à Londres pour rencontrer Warren Spector et découvrir un petit peu les toutes premières images en avant-première de son nouveau jeu. Il s'agit d'Epic Mickey, dont on parle beaucoup ces derniers temps.
Ouais.
Alors on avait découvert des premiers artworks absolument somptueux.
Tombé par terre. Ouais.
Voilà, et puis toi, tu as pu voir vraiment le jeu. On a découvert Gameblog les premières images.
Vous avez pu le voir aussi et vous avez peut-être pu être déçu aussi.
Visuellement un peu, on va pas te le cacher. Ouais. Mais au niveau de l'histoire, au niveau de l'intérêt, au niveau du gameplay,
alors,
de quoi
déjà,
s'agit-il ?
D'une part, je voudrais quand même revenir sur l'histoire des screenshots. Évidemment, c'est de la Wii, donc évidemment, faut pas s'attendre à avoir un jeu qui va défoncer tout. Mais les screens qui ont été diffusés et les versions qu'on a vues, y a une version qui est assez peu avancée relativement à sa sortie, encore au moins un an de développement. Et dans le tas, il y a ce qu'on appelle un modèle d'éclairage qui n'était pas implémenté, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de relief, il n'y a pas le volume final du jeu et des effets visuels supplémentaires qui sont très importants.
C'est un peu plat pour l'instant, mais
voilà.
Ça va
c'est
prendre
parce
du
qu'il manque tout bêtement le modèle d'éclairage final qui n'est pas encore implémenté dans le moteur. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que le jeu final sera magnifique, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il sera certainement nettement plus beau que ce qu'on a vu.
Pourtant, les éclairages de l'interview de Warren Spector étaient plutôt sympas.
C'est pas de notre faute, on était dans un. On était obligé de le faire là et voilà. Bref.
Alors au niveau du gameplay et de l'histoire succinctement, hein, parce que bien évidemment il y a le dossier, toutes les infos que t'as pu déjà faire.
Ouais, mais on va rappeler vite fait le pitch parce que moi, enfin en tous les cas le pitch du projet est génial. Déjà d'une part c'est quand même incroyable que Disney s'attaque à la refonte de l'image du personnage de Mickey et veuille en faire un héros. Et c'est dingue qu'il demande à Warren Spector de faire ça parce que Warren Spector quand même pour resituer, il y en a certainement qui l'ignorent, c'est quand même le père de Deus Ex, c'est le père de System Shock 2, de jeux en général avec des mecs qui ont des lunettes de soleil et des gabardines en cuir ou de la fantasy. Tu vois, il a bossé aussi sur Ultima Underworld par exemple, qui est un autre vieux jeu. Bref, c'est pas du tout son univers à la base, c'est un développeur PC qui est là pour faire des jeux qui sont extraordinairement basés sur le choix et récupère un petit peu toute cette philosophie pour Epic Mickey, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment moyen de faire de Mickey un personnage solitaire qui pourrait se montrer peut-être pas agressif non plus parce qu'il y a quand même des limites à pas passer avec Mickey, mais tu peux le voir sur certaines images et tu peux le voir à certains moments. Plus tu vas progresser dans le jeu en faisant des choix solitaires, en effaçant des objets plutôt qu'en en peignant, etc., plus tu vas avoir un personnage qui va changer visuellement et qui va devenir plus antipathique en fait. Déjà ça c'est énorme par rapport à Disney parce que tu t'attends pas à ce que Mickey puisse prendre cette route là et à ce que Disney autorise quelqu'un à faire ça avec son personnage. Et puis toute l'histoire et le pitch de l'univers est génial, c'est-à-dire que pour le refaire bref, en 1928 Walt Disney bosse pour Universal et produit pour Universal un dessin animé qui s'appelle Oswald the Lucky Rabbit. Le personnage d'Oswald donc à l'époque était l'équivalent de Mickey. Universal fout la pression sur Walt Disney pour baisser les coûts de production du dessin animé et virer des gens.
Je rappelle juste que ce que tu es en train de raconter, c'est une histoire vraie. Hein.
Oui, c'est la véritable histoire de Walt Disney. Donc Walt Disney refuse contre toute attente parce qu'Universal pensait qu'il allait plier. L'industrie n'était pas extraordinairement développée à cette époque-là en animation. Il refuse, il se casse, il fonde Walt Disney Pictures avec toute son équipe et il crée Mickey. Et Mickey devient la star qu'on connaît évidemment et Oswald tombe dans l'oubli. 80 ans sans Oswald, puisque le personnage, bien qu'il appartienne toujours à Universal, n'a plus été traité. Et le pitch du jeu, c'est ça. C'est-à-dire que Mickey se fait absorber dans un monde parallèle qui s'appelle le Cartoon Wasteland, dans lequel se trouvent tous les déchets ou toutes les choses qui n'ont pas été utilisées par Disney, parce que Disney ne jette jamais rien dans les bureaux, leurs bureaux en Californie. Il y a des archives de ouf, quoi. Ils n'ont jamais rien acheté, toutes les versions qu'on jamais vu le jour de certains personnages, etc. Tout est conservé. Et donc, dans le jeu, cette fois-ci, en fait, Oswald se retrouve est dans cet univers-là et reconstitue, en fait, parce qu'il est jaloux de Mickey qui lui a volé son destin, il reconstitue tous les amis un petit peu de manière avec de briquet de broc. Ils ont l'air un petit peu cybernétiques. Il y a un faux Donald, il y a un faux Pluto, il y a un faux. Tous les amis de Mickey ont été refaits par Oswald pour qu'il puisse entourer à la manière de Mickey. Et Mickey se retrouve là-dedans et ce sera au joueur de choisir au final s'il veut vraiment aider les habitants de ce monde ou ne pas les aider et se concentrer sur comment rentrer chez lui.
Et ce fameux pinceau qu'on pourra manier à la Wiimote.
Alors effectivement, donc ça c'est l'aspect gameplay. Il y a la possibilité de peindre ou d'effacer des parties du monde, soit les décors, soit même des personnages, des choses qui sont dans cet univers. Et ça c'est un des outils auxquels le joueur aura accès pour résoudre certaines énigmes, progresser dans le jeu, sachant que la structure narrative du jeu sera similaire à celle d'un Deus Ex, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds par lesquels on pourra passer, mais il y aura plusieurs fins, et en fonction de ce que tu auras choisi de faire sur telle ou telle quête, de tel personnage que tu auras choisi d'aider ou d'envoyer paître, eh bien, tu auras accès à des quêtes différentes, tu auras accès à des niveaux différents, et ton personnage bougera.
Et même s'il est encore beaucoup trop tôt, hein, puisqu'on est à plus d'un an avant la sortie du titre, ton sentiment pour l'instant ? Ton ressenti ?
J'ai très confiance sur le game design en fait et sur l'intérêt du jeu et de son histoire. J'attends effectivement de voir si les équipes de Spector pourront en faire aussi un jeu qui sera visuellement au-dessus de la moyenne sur Wii, parce que c'est vrai qu'en dehors, j'aimerais bien en fait qu'il soit techniquement aussi
qui sort sur Next Gen.
Oui, mais t'auras pas
en fait, c'est un peu le souhait de tout le monde, j'ai l'impression. c'est le problème.
Mais t'auras pas la dynamique du pinceau qui est gérée à la Wii Remote, quoi. C'est un cap qui est
sur Natal ou avec les contrôleurs de la
PS3. Peut-être qu'ils le refont.
C'est même Okami marchait aussi bien sur PS2 que sur Wii.
Ouais, mais c'est pas pareil parce que dans Okami tu frises l'image et tu peux peindre ensuite. Alors que dans Mickey, là, tout se passe en temps réel pendant que t'es dans l'univers.
Et puis c'est pas pareil, Okami c'était beau. à la base.
Mais imagine-le avec un graphisme vraiment amélioré d'ici un an. Peut-être qu'ils arriveront à faire un truc qui sera aussi chatoyant qu'un Super Mario Galaxy.
En tout cas, le pitch il est vachement intéressant.
Non, mais clairement, le gameplay a l'air très riche et l'histoire est vraiment prenante.
Pour Disney, pour ceux qui aiment l'univers de Disney et qui aiment le personnage de Mickey, c'est énorme parce l'histoire que ce qu'il faut savoir, c'est que Spector, en fait, et ça il le savait pas au départ, mais Spector est un super gros fan de Mickey et de Disney et en fait c'est un petit peu par hasard parce qu'au départ il était parti pitcher un jeu de ninja qui avait rien à voir tu vois à Disney Interactive.
Il s'est retrouvé avec Mickey
c'est ça et Disney lui a refourgué Mickey mais avec une vraie volonté de vraiment de rafraîchir le personnage parce que Mickey au départ dans les années 30 plutôt au début c'était un personnage espiègle qui faisait des mauvais coups etc. C'était pas du tout le Mickey
des coups pendables
c'était pas le Mickey qu'on connaît d'aujourd'hui qui a une image complètement détruite parce que ça fait 20 ans que Disney on fait un personnage pour gosse.
Et d'ailleurs, on a appris qu'a priori Pixar faisait des allers-retours du côté des studios de Warren Spector.
Alors,
peut-être un film en animation aussi, histoire, en gros, que
je
Disney
sais
voudrait
de source sûre. Je sais de source sûre qu'il y a d'autres projets autour du jeu Epic Mickey. Ouais. Maintenant, lesquels c'est, je ne saurais pas le dire.
Eh bien, à suivre dans les semaines à venir. On vous en parlera bien évidemment sur Gameblog.fr. On va passer à ton coup de cœur, toi, Julo, sur un jeu dont on a beaucoup parlé, mais qui effectivement nous a beaucoup touché, dont ta petite fille, Aiko, avec Archicosto, qui est désormais mondialement célèbre.
Non, c'est mon coup de cœur du mois parce que...
Donc iPad, bien sûr.
iPad, bien sûr, ouais. J'ai eu d'autres coups de cœur comme ça, vidéoludiques, notamment Forza, etc. Mais là, pour la première fois, j'ai pu jouer avec ma fille qui est très jeune, mais j'essaye souvent de la faire jouer. Le dernier truc en date, c'était Flower. Je me suis dit, ça va être super simple, tu vois. Alors, j'ai bien expliqué le principe. Elle est arrivée plus ou moins à le faire. Puis au bout de 5 minutes, elle m'a fait « Bon, je vais faire des Lego. » Hop, elle s'est cassée. <toi. Ouais. rire> Et là, avec iPad, elle me l'a redemandé plusieurs fois. Alors, pas souvent, parce qu'elle aime faire un tas d'autres trucs.
Un peu jeune,
et qu'elle est petite et tout. Mais elle est contente d'y jouer. Et d'y jouer avec moi. Et ça, j'apprécie. Voilà,
c'est
je trouve ça cool,
mignon.
Quoi. Ouais, à chaque fois. Et donc, voilà, c'est mon petit coup de cœur à moi ce mois-ci.
Bah ouais,
bon,
c'est
la dernière fois que Julo il utilise son Joker tendresse Aiko hein, parce que dès qu'il commence à parler de sa fille moi je veux plus entendre parler d'autre chose.
C'est trop facile tu trouves. Mais non,
c'est
mais
trop
c'est vrai.
Facile ouais. Et c'est pourtant... trop mignon, elle est trop mignonne voilà.
Mais au-delà d'effectivement de ce moment un peu émotion, c'est vrai que c'est difficile de dire que le jeu en lui-même est absolument énorme, c'est vraiment une expérience, mais à côté de ça, vraiment, toutes les personnes qui l'ont essayé, qui sont un peu pas des gamers chevronnés, moi je l'ai fait essayer à Manana par exemple, et c'est vrai qu'il y a ce moment de découverte. Par
elle
exemple,
aussi,
la
elle est un petit peu jeune pour vraiment jouer dedans, mais...
Aiko
non, ta nana.
Je vous
désolé.
En prie, monsieur, je vous en prie.
Si tu nous écoutes, on est désolé.
Le pire, c'est qu'elle va écouter.
Oui,
et que Léon le
Mylène, je m'excuse,
superbe.
Mylène.
Ah, j'avais pas dit son prénom pour respecter.
Avec sa petite houppette rouge. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une vraie tendresse dans le jeu. On découvre des choses et on se prend avec cette réalité virtuelle à découvrir des sensations qu'on n'a pas l'habitude de connaître avec du jeu vidéo pur. Quoi.
Voilà, et tu le disais, puis pour un joueur même pas chevronné, quelqu'un qui a envie d'avoir une expérience de jeu, qui a l'habitude d'avoir 2-3 expériences de jeu comme ça, c'est quelque chose qui va tourner en rond très rapidement aussi, bien qu'il y ait 60 mini-jeux, etc. Mais je veux dire, l'intérêt peut vite s'effacer, notamment chez moi ce serait le cas si je pouvais pas y jouer avec ma fille. Mais voilà, en tout cas pour jouer en famille c'est super quoi. Ça marche très bien et c'est idéal.
Et gloire à Léon Ledoux.
Voilà. Et voilà. Archicosto qui est vachement plus balèze, j'en suis sûr.
On fera un défi.
On fera un combat.
Exactement. Archicosto contre Léon Ledoux.
Voilà, pour le prochain DLC, le combat.
C'est ça. Allez, on va passer justement. On parle que de combat et bien des coups de gueule de la rédaction de Gameblog.fr. On va commencer avec toi, Pia. Et là, je ne sais que dire. Kojima atteint de sarcosisme aigu. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ben, en fait, je m'en suis rendu compte en faisant un petit tour sur les news du mois d'octobre. Hein ? Comme ça, voilà, un petit tour. Et je trouve que donc Kojima, Hideo Kojima, hein, Metal Gear Solid, le héros vivant de Julien,
mais non,
son personnage,
il partage quand même un
avec
point
ça.
Commun avec notre bon président, c'est qu'il ne peut pas faire de la muscu, il ne peut pas lire les infos, il ne peut pas relooker son équipe sans en parler aux journalistes et nous on relaie. Donc voilà, donc c'était un peu mon coup de gueule. Hideo, arrête. Obama a un prix Nobel, paf, il faut qu'il en parle et puis qu'il mette ça en rapport avec son jeu, tu vois. Il fait de la muscu, hop, il nous envoie une petite photo de ses muscles, il n'arrête jamais.
Et à la fois, regarde, on en parle encore aujourd'hui dans ce podcast,
fort,
ça te fait réagir.
Il est fort. Oui,
nous,
oui,
on peut
oui,
vous
oui,
le dire,
hein,
les news dédiées à Hideo Kojima sont de loin les plus cliquées de Gameblog.fr. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement qu'elles arrivent à réunir deux choses énormes. Ceux qui détestent Hideo Kojima, mais qui lisent quand même, qui veulent savoir ce qu'il fait.
Parce qu'ils veulent le détester encore plus.
Voilà. Et ceux qui adorent Hideo Kojima. Et moi, je trouve qu'effectivement, il y a plein de trucs achetés dans ce qu'il fait quand il monte ses muscles, on ne comprend pas très bien pourquoi.
Ouais,
je suis
aussi
d'accord avec toi quand Obama a le prix Nobel de la paix, que je comprends
pas. On comprend bien non plus pourquoi.
Voilà, ça, on comprend pas non plus pourquoi, mais enfin bon, pourquoi pas. Mais, et qui réagit dessus pour le lier à son jeu, c'est un peu capillotracté. Mais à la fois, il a cette force eh bien, d'être un créateur qui s'exprime, qui parle, qui fait réagir.
Ouais, il fait le show, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu vidéo a besoin d'icônes fortes qui glamourisent le jeu vidéo.
Je suis d'accord Pierre, mais je trouve pas qu'il fasse le show, parce qu'en l'occurrence, c'est nous qui contribuons à faire son show là en l'occurrence.
Ah oui, non mais attends, il nous donne les perches.
Ouais, mais...
Il sait utiliser tous les moyens de communication qui l'entourent.
Il sait nous utiliser, et il le fait très bien.
Moi je trouve qu'il a un... Hideo Kojima il a un blog, il y a beaucoup de créateurs de jeux vidéo qui ont un blog, qui lorsqu'ils sortent un jeu ont une zone blog, qu'ils alimentent absolument jamais, où ils mettent des choses inintéressante à part dire voilà aujourd'hui nous avons fini le jeu est gold et c'est complètement inintéressant
alors que le bras d'Hideo Kojima
non mais Kojima tous les jours il poste un truc genre j'ai mangé ça, j'ai vu ça, j'ai écouté telle musique, ça m'a plu, j'ai vu tel film, j'ai trouvé ça intéressant.
Attends,
regardez
mais...
j'ai fait de la muscu machin, voilà,
il est
vivant. Il est vivant.
J'ai l'impression d'avoir lancé un gros troll, on va jamais l'arrêter.
Il est uniquement en japonais son blog ou pas?
Il est uniquement en japonais malheureusement.
Ils traduisent quelques trucs parce que
ils traduisent quelque chose, mais ils le faisaient surtout au début et après ils ont un petit peu abandonné l'affaire. C'est un peu dommage.
Il a plein de fans en France.
Mais la preuve, tu vois, si on le relaie, c'est qu'il y a plein de fans qui le traduisent en anglais, ce qui nous permet de pouvoir en parler.
Magnifique. Mais c'est vrai que t'en parles pour se foutre de sa gueule aussi, parce que voilà, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Mais quand tu vois la photo des devs de son équipe de Kojima,
c'est
Heroes. Pour moi,
mais
ça m'a fait penser à Heroes instantanément.
Complètement.
Mais je suis persuadé qu'il le fait exprès. Ça veut dire qu'il sait.
Ah, bien sûr.
Je pense qu'il. À la fois, il a le côté fier, mais il fait toujours des trucs quand même assez classe. Et puis, il se dit, voilà, ça va faire parler, etc. Moi, je trouve qu'il a
Julien, il se la pète.
Mais oui, il se la pète, mais il assume. Et derrière, je pense qu'il a juste tout compris au marketing.
Ah oui, ça, c'est
sûr. Il
n'y
a pas une semaine où on n'en parle pas.
Il nous mène en bateau.
Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça vous intéresse, même pour le détester peut-être.
Parce que ça nous intéresse aussi.
Parce que ça nous intéresse aussi. Et parce que ça fait partie du jeu vidéo en général et de son évolution. Après, on aime.
En fait, ce qui est dommage, c'est que ce soit un petit peu le seul comme ça. Parce que si c'était plusieurs à être, ça relativiserait peut-être un petit peu. À une époque, on avait ce. Moi je kiffe Itagaki, moi j'adore ce mec, dès qu'il ouvre sa gueule il en colle plein partout.
Le créateur des Dead or Alive.
Voilà, Itagaki, et maintenant depuis qu'il s'est fait tège en gros de Tecmo et de la Team Ninja qu'il l'idée à l'époque, on n'entend plus trop parler, mais j'adorais ce mec moi.
Mais Kojima c'est une personnalité.
On a besoin de gens comme
on
ça.
On a besoin de visages, de personnalités, de gens qu'on aime détester, de gens qu'on adore, qu'on apprécie, qui prennent des positions, qui vont trop loin. Kojima
on
va
besoin,
trop loin
on a
plein
besoin
de fois.
De plus de personnalités
D'humain.
Différentes. Parce que c'est vrai D'humain. Qu'entre Molineux qui fait une Molineux conférence. Tu vois la Gamescom et puis Kojima qui fait une Kojima conférence tous les jours. C'est vrai qu'il va nous falloir un peu.
Bah écoute, les autres
monde.
Vont s'entraîner un petit peu, ils vont prendre exemple sur Kojima.
On fait un appel à tous les développeurs de jeux vidéo, racontez-nous vos vies.
Montrez-nous vos muscles.
Savoir plus sur vous.
Non mais soyez intéressant hein, à
les
la base,
développeurs
ça
à poil, les développeurs à poil.
Mais dans le même temps, on parle de Kojima quand même, il a quasiment annoncé le développement d'un Zone of the Enders 3.
Oui.
Alors, ça c'est vraiment
ça, c'est intéressant,
une des informations fortes quand même d'octobre aussi. Alors, il a pas dit on est en train de le faire, mais il a dit je vous ai entendu. Je me suis foiré sur le 2, pas au niveau du jeu mais au niveau du placement, à quel
timing,
moment il fallait sortir, voilà, et on a bien compris, et alors ce qui est génial quand même, et c'est là moi j'adore ce mec, c'est que il nous révèle plein de trucs, c'est-à-dire qu'en fait il a annoncé après que lorsqu'il avait déclaré ça, donc il y a à peu près une quinzaine de jours, et bien ses propres employés l'ont chopé dans l'ascenseur et lui ont dit « Attends, on vient de voir qu'apparemment tu disais que probablement on relancerait le projet. Je peux en être, je veux en être, etc. » Et ça, il vous le révèle. Ben, je trouve que c'est bien de voir. Il balance tout, il dit tout. Du coup, on sent une certaine proximité. Et je pense que quelque part, beaucoup de personnes qui apprécient aussi Gameblog aiment bien ce rapport de, un peu privilégié qu'on essaye de vous donner. Et ben, c'est finalement un peu Kojimiesque, quelque part.
Oh, non, mais c'est vrai. Donc c'est quand même à nous d'essayer de donner la parole à d'autres créateurs.
Exactement, merci
Pierre. Mais mine de rien, depuis quelques années maintenant, on en voit qu'il émerge vraiment des visages du jeu vidéo. Il y en a beaucoup au Japon, il y en a beaucoup en Occident maintenant aussi, etc. Ben, voilà, tu vois, depuis le début, on a cité combien de personnes. Warren Spector,
sur chaque podcast,
on parle de Kamiya, de Itagaki, de
Inafune, ou il y en a d'autres, mais finalement,
c'est
le
jeu vidéo japonais est mort quand même.
Mais c'était pas le cas il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait pas autant des créateurs.
Et là, c'est quelque chose, vraiment.
Mais c'est pas encore.
Il y a des personnalités intéressantes qui se dégagent.
Ils sont pas encore passés dans le domaine public. Les deux seuls que les gens connaissent plus largement que nous, c'est Miyamoto et
Kojima.
Et Kojima, c'est tout.
Et Kojima, ouais.
Encore, surtout Miyamoto en fait.
En tout cas, vous avez vu, il a fait naître la passion.
C'est intéressant de voir.
Non, mais soulignons quand même le parallèle de Pierre qui est très rigolo.
Oui,
avec Sarkozy. Parce qu'il y a quelque chose quand même.
Oui, il y a quelque chose.
C'est rigolo.
Il y a un petit peu de moi-je, ouais.
Oui, c'est un peu vrai aussi.
Hein.
Il est petit, même pas.
Oula, tu vas avoir des problèmes.
Allez, on va passer au coup de gueule de Julo. Julo, toi, c'est un jeu PSP.
Non, alors, c'est pas le jeu, le coup de gueule.
Oui, mais je sais. Mais justement, on n'a pas pu en parler le mois dernier parce qu'il est sorti juste au tout début du mois d'octobre.
On y a parlé quand même furtivement. On en a parlé furtivement.
Il s'agit du Gran Turismo PSP. Qu'est-ce qui se passe, Julo? Pourtant,
et
tu as apprécié
ce
jeu.
Mon coup de gueule, voilà, alors, j'adore ce jeu. Je le trouve mais vraiment incroyable techniquement. Et je comprends pas. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont sorti pour la première fois un Gran Turismo sans mode Gran Turismo. Et du coup, j'y ai beaucoup joué dans les défis. J'ai fait quelques tours de piste. On a joué en multi avec Traz, etc. Mais la dynamique est brisée immédiatement parce qu'il n'y a plus rien après, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule à moi. Et surtout, je le transforme en inquiétude vis-à-vis de Gran Turismo 5, dont les dernières déclarations de Kazunori Yamauchi m'inquiètent, du coup, parce qu'il s'est dit, il disait plus ou moins qu'il allait s'inspirer de cette structure.
Ah bah dans notre Gameblog TV, l'interview que vous avez pu découvrir, effectivement.
Voilà.
Il dit,
En tout cas, il disait qu'il y songeait à transformer un peu la structure classique des Gran Turismo comme il l'avait fait sur PS. Et je dois dire, ça m'inquiète. Voilà. Parce que j'adore Gran Turismo et ce mec fait des jeux juste incroyables. Et je pense que Gran Turismo 5 va en plus vraiment booster la série avec tout un tas de nouveaux trucs.
Il va être très riche, ouais.
Ouais, ça va être très riche, ça va être très beau.
On a appris l'éditeur de circuit il n'y a pas tellement longtemps.
Mais attends, mais faut le rappeler, hein, sur PSP, Gran Turismo, c'est tout simplement hallucinant, quoi. Il est techniquement hallucinant. Donc voilà, je suis déçu par ça. Voilà.
Donc plus qu'un coup de gueule, un véritable appel du cœur, une déception, une incompréhension de la part de Julo.
Mais je pense qu'il y a une telle, je veux dire, tout le monde parle de la même voix pour dire la même chose.
Bah surtout qu'on l'a attendu pendant longtemps quand même.
Ouais, et on l'a attendu longtemps, c'est forcément retombé dans ses oreilles et très vite, et c'est peut-être, voilà, ça sera peut-être l'objet d'un DLC, et j'espère d'un changement de direction pour Gran Turismo 5 et son mode
Mais pas d'un DLC payant, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Merci. Raon, toi, ton coup de gueule, eh ben, il est partagé par beaucoup de personnes, hein, très clairement. Il s'agit de Modern Warfare 2, le jeu a l'air juste énorme, bien sûr. Ouais. Mais alors par contre, au niveau des serveurs dédiés au PC, ça bloque.
C'est ça, bah ça c'est tout bête. Je vais expliquer vite fait ce que c'est qu'un serveur dédié pour ceux qui ne savent pas. Depuis que les FPS existent sur PC, tous les joueurs peuvent choisir d'héberger des serveurs qui ne sont là que pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueurs dessus. Tu prends une machine, tu installes ton serveur dessus, les gens s'y connectent et jouent sur ce serveur. Donc ce serveur, tu peux le configurer comme tu veux, tu peux le faire privé si tu veux jouer que avec tes potes ou que avec ton clan. Tu peux faire ce que tu veux un petit peu. Et tous les FPS joués sur le net, c'est comme ça depuis que le monde est monde sur PC. Depuis les réseaux IPX, bien avant même que Internet soit vraiment démocratisé.
Ça fédérait les communautés, je crois que c'est ça.
Mais tout le pro gaming s'est développé par-dessus. Quand tu fais des LAN parties, c'est ça. T'as un serveur dédié et les gens jouent sur ce serveur-là. Et donc, Infinity Ward, donc le développeur de Modern Warfare 2, a annoncé que la version PC de son titre ne proposerait pas d'option serveur dédié pour favoriser la mise en place d'une nouvelle plateforme qu'ils ont développée exprès pour ce jeu et qui leur permet de faire, par exemple, du matchmaking comme on en a sur console. En gros, tu recherches une partie et on te met avec des joueurs de ton niveau. Mmh. C'est ça le matchmaking. Sauf que les joueurs PC s'en foutent un peu, déjà d'une base, d'une part. C'est sympa d'avoir du matchmaking, c'est vraiment chouette, mais virer les serveurs dédiés à côté, c'est évidemment une opération qui est hyper négative, parce que c'est une opération de maîtrise, en fait. C'est pour être sûr que les gens vont acheter leur DLC comme ça, pour être sûr qu'ils vont pas pouvoir faire des mods aussi, parce que sur PC, c'est très courant, les mods, donc c'est-à-dire modifier un jeu pour changer les règles, changer les modèles, si on veut s'amuser un peu avec. Enfin bref, il y a tout cet aspect communautaire qui a toujours été fort sur le PC, qui est tué purement et simplement par ce choix de ne pas proposer les serveurs dédiés. Et je comprends que les joueurs PC en général gueulent là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'excuse.
Voilà. Et puis il y a une pétition qui a recueilli déjà plus d'une centaine de milliers de signatures.
Voilà, là où on en est, je me demande même si elle n'a pas passé les 200 000. Ouais. Mais je ne pense pas que ça suffira, ça ne changera pas grand-chose.
Ils ont l'air d'être assez inflexibles sur la chose.
Bah oui, ils ne vont pas se mettre maintenant, alors qu'ils ont développé toute une plateforme pour faire leur truc. Tant pis, mais bon, après ça n'empêche pas les joueurs de continuer à jouer à Modern Warfare 1 en réseau et moins jouer au 2, quoi.
Enfin, à la sortie du 2, ça fait quand même un petit peu mal, hein, quand même.
Bah ouais.
Allez, on va passer au gros jeu du mois d'octobre. Alors là, il y en a une flopée, c'est Noël avant l'heure, hein, tout simplement. On va commencer avec GTA The Ballad of Gethony. Il est sorti en exclu Xbox 360, en téléchargement, puis aussi en version
le 29,
boîte, hein. En pack.
Oui, en pack avec la première extension de Lost and Damned, celle avec les backers.
Et alors justement, Ballad of Gethony, c'est un total autre univers que ce Lost and Damned.
Ouais.
Et pour certains, en tout cas, il est vachement péchu,
honnêtement,
spectaculaire.
Franchement, des trois épisodes, donc si on prend GTA 4 comme l'histoire de Niko Bellic comme la première, ensuite Lost and Damned, ensuite Gethony, moi personnellement, j'ai trouvé que Gethony était la meilleure.
Ah ouais, carrément.
Ouais. Alors c'est un petit peu court, évidemment, parce que ça reste un DLC, ça reste un épisode.
Quand tu dis un peu court, c'est quoi? C'est 15-20 heures?
Non, pas tant que ça. Non, franchement,
si tu
fais bout à bout vraiment toutes les missions, t'en as pour une dizaine d'heures à tout péter, quoi.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Mais c'est pas mal, hein.
Pour un DLC, quand même.
C'est pas mal.
C'est, tu sais que 10 heures, c'est la durée de vie. J'ai même pas
besoin
de jeux. Les jeux durent moins de 10 heures maintenant.
Ouais. C'est en étant généreux, parce que bon, voilà, c'est vrai.
Enfin bref. Et puis quand tu joues à GTA, tu perds tellement de temps.
T'as largement suffisamment de contenu. Alors, il apporte donc une nouvelle histoire, qui est celle de Luis Lopez. On en a déjà parlé, qui est le bras droit du fameux Gethony, qui donne son titre à l'extension. Et en gros, c'est une ambiance qui renoue peut-être un petit peu plus avec ce qu'on a pu connaître sur Vice City, par exemple, avec le monde de la nuit, avec des personnages hyper extravagants, avec des missions incroyables où il y a le grand retour du base jumping qui avait disparu de ce nouvel épisode, donc le parachute, avec des missions où tu vas voler des hélicoptères de guerre sur des yachts à perpète dans la baie de Liberty City.
C'est beaucoup plus spectaculaire.
C'est extrêmement spectaculaire, et en même temps, narrativement, le traitement de l'amitié entre Luis, qui est hétéro, et Tony, qui est gay, est vachement intelligent. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans des clichés faciles, etc. C'est juste, en fait, en quelque sorte, le fait que Tony soit homo, on s'en fout, quoi. Enfin, ça n'empêche pas ces deux hommes de vivre une histoire de loyauté qui est inhabituelle finalement dans l'univers de GTA, qui est plutôt grinçant. Même Lost and Damned, c'est ultra violent. C'est l'histoire d'un gang qui explose complètement et avec des amitiés qui s'arrêtent, quoi. Niko Bellic, c'est l'ascenseur social grippé, le mec qui débarque mais qui arrive à rien et qui se retrouve à faire des choses dignes de la pègre. Et là, t'as une histoire qui est un petit peu plus douce, qui donne une petite lueur d'espoir pour un petit peu clôturer cette trilogie, en disant que bon, effectivement, c'est ultra violent, effectivement il y a des choses, ça reste du GTA, hein. Mais ces deux là l'histoire est vraiment passionnante pour ça. Moi j'ai bien aimé, et on lui reprochera peut-être les ajouts des minigames qui sont pas géniaux, c'est-à-dire qu'en dehors du golf et du base jumping, tout ce qui est l'aspect gestion de boîte, etc., c'est assez sommaire et c'est vraiment pas très passionnant. C'est un petit peu dommage, mais en dehors de ça, l'aventure est bien, le scénar est bien, et c'est du grand GTA.
Comme tous les tests, tous les jeux que là on va citer dans ce podcast, bien évidemment tous les tests sont présents sur gameblog.fr si vous voulez en avoir un petit peu plus, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails. Là c'est vraiment pour apporter un deuxième regard. Justement, puisqu'on parle de Ballad of Gethony dans la version pack, Episode of Liberty City, à la page 13, on a pu voir, si vous êtes bien observateur, eh bien un petit artwork avec marqué eh bien, une sorte de teasing sur GTA V, en fait.
La prochaine fois, enfin c'est la fin de Liberty City, je crois, ça, la phrase. Ou c'est la prochaine fois, ce ne sera
pas. Next stop. Voilà, donc prochain arrêt. Et là, t'as un petit bout de la page qui est déchiré. Et on découvre un bout d'artwork derrière.
Qui fait penser à de la campagne.
Ouais,
on semble
voir un peu de verdure, peut-être un petit bout d'arbre, je sais pas.
Vous avez beaucoup d'imagination.
Ah non, mais alors
on
l'imagination,
pas grand-chose,
t'inquiète. Parce qu'il y a des gens qui ont vu dans la déchirure la forme de la France.
Ah oui, c'est vrai.
Du nord-ouest,
c'est incroyable,
de la France. Alors, c'est peut-être vrai, on sait qu'il y a des développeurs français, hein, dans les équipes de Rockstar.
Oui,
alors,
mais ceux qu'on connaît ne travaillent pas sur GTA.
Mais alors bon, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, GTA 5, il est vraiment bien.
GTA chez les ch'tis.
Oh my gosh.
Non mais sachant qu'ils vont vraiment augmenter la taille de l'aire de jeu quoi, parce que finalement GTA 4 était vachement plus petit que San Andreas.
Oui mais ça suffisait, San Andreas c'était vraiment gigantesque.
Mais c'était vraiment gigantesque et t'avais justement de la campagne comme ça. Tu passais vraiment d'une ville, d'une bourgade à une autre comme ça en passant par des petites routes de campagne. Et moi ça me fait penser un peu à ça. Et alors,
aussi,
pourquoi pas la France quoi. Ouais.
Ah bah écoutez,
on verra.
Réponse. Après, les histoires de gangs sont peut-être vachement moins passionnantes en France, quoi.
Ah,
surtout dans le Nord.
Du côté d'Auxerre, hein, tu sais, il y en a, ils sont au top. Ouais. Bon, en tout cas, on le saura bientôt, puisque a priori GTA V devrait sortir en 2010. Hein,
c'est ce qui est prévu,
ouais. Donc ça va aller très vite. Globalement, en ce moment, c'est un peu du GTA tous les 6 mois, un an maximum. Bah, ouais. Si vous aimez l'univers, eh bien, vous allez être servi. On passe à un autre titre, Forza Motorsport 3, Julo. Toi aussi, ça a été un gros coup de cœur. T'as particulièrement apprécié.
Vraiment un excellent jeu de course quoi, pour ceux qui aiment la simulation. Et même pour ceux qui sont plutôt casual, arcade, etc. C'est un jeu qui vraiment balaye tous les joueurs. On peut y jouer en mode complètement assisté, où il n'y a plus qu'à tourner le volant. On peut aussi, si on veut grimper comme ça dans les échelons du réalisme et se retrouver devant une simulation mais ultra complète. Alors là pour le coup il y a contrairement à Gran Turismo sur PSP, il y a un vrai mode solo ultra gonflé à bloc avec plus de 200 épreuves, etc. Une gestion des améliorations des bagnoles et des réglages ultra pointus, enfin vraiment on peut y passer des heures et des heures.
Ah bah comme Poufy.
Et comme Poufy, voilà.
Poufy, il passe beaucoup de temps. Il a malheureusement fini second d'un tournoi qui a été organisé
pour le lancement du jeu, ouais.
Pour gagner un baptême en 908. Mais c'est vrai que c'est un jeu super immersif et la modélisation quand même est hallucinante.
Ah ouais, non mais c'est techniquement superbe. Et puis il y a un mode online qui est ultra complet comme celui du 2 d'ailleurs, hein, qui était déjà énorme. Bref, voilà quoi. En attendant Gran Turismo, c'est juste, c'est le top du top du jeu de course. Voilà.
Après, il faut avoir une Xbox 360, hein, c'est une exclu.
Voilà, tout à fait, c'est une exclu bien sûr. Et voilà, ça va être beaucoup joué sur le live. Il y a du monde. C'est un jeu excellent. Hein. Top of the pop.
On est d'accord, mais il y a eu beaucoup d'autres jeux. On va citer rapidement, hein, une fois de plus, les tests sont sur Gameblog si vous en voulez plus de détails. PES 2010, FIFA 10.
Voilà, il y a carrément un podcast. Là,
voilà, vous avez un podcast qui est dédié. Brutal Legend aussi, qui nous a beaucoup plu. Et bien sûr, une fois de plus, le podcast, c'était la semaine dernière, hein, sur Tim Schafer.
Voilà.
Dans ce monde de rock hallucinant, quand même. Visuellement pas très marquant, enfin il y a des bémols et puis c'est très stylé en tout cas.
Il y a des imperfections ludiques mais c'est vrai que le délire est vachement intéressant quoi, et puis c'est drôle, c'est rigolo, c'est du Schafer. Quand on aime Schafer, on aime Brutal Legend.
On est d'accord. Pia, du côté de Borderlands, toi aussi t'as beaucoup aimé, alors même si tu n'as mis que 4, mais tu es une fille et tu aimes Maison du Style.
C'est une très bonne note, 4,
si j'ai bien compris.
Voilà, si j'ai bien compris. Non mais Borderlands, bon jeu. Moi je trouve que voilà, il est très très beau, très inspiré, mais encore un peu jeune au niveau de l'univers. Tout n'est pas parfait au niveau du gameplay. Et puis alors je soutiens, lecteur de Gameblog qui m'écoutait, qui avait commenté, je ne suis pas d'accord avec vous. Le mode écran splitté, ce n'est pas un bon mode écran splitté.
Voilà, c'est dit.
Ça aurait pu être un coup de gueule, Pierre.
Je suis sûr qu'il va se planter, même. Je suis persuadé qu'il va se planter. Par contre,
la réalisation graphique, elle est hallucinante.
Ah oui, c'est super joli.
Rendu cartoon.
Ah non, mais là, il n'y a pas de problème. C'est sublime. C'est très beau. C'est sublime. Maintenant,
mais il va se planter quand même.
Voilà. Oui.
Alors, est-ce que Opération Flashpoint 2 va se planter aussi?
Oui.
Ah, d'accord.
La réponse est oui. Et là, parce que c'est pas vraiment un bon jeu. Enfin, le postulat était intéressant, faire une simulation un peu militaire, donc la suite du fameux Opération Flashpoint. Mais d'une part, c'est pas Bohemia qui l'a fait. C'est en interne chez Codemasters. Et puis c'est tellement blindé de bugs. Enfin, sur PC, il aura peut-être un avenir, quoique contre Arma, je suis pas certain. Mais sur console, il faudrait tellement de mises à jour et de trucs gratos pour le mettre à niveau, parce que l'IA est lamentable.
Ouais, mais alors le truc, c'est que tu peux jouer en multi, et à ce moment-là, du coup,
ouais, c'est plus rigolo en multi.
Mais défauts énormes. Donc peut-être quand quelqu'un qui l'achèterait pour y jouer uniquement en multi avec 3 autres potes, ou je sais plus combien on peut jouer, 4, 5
Non, je sais
16,
pas.
Je crois.
Je sais plus.
Une voix me dit que 16 devrait être le bon chiffre.
Enfin bref, tu peux y jouer en multi comme on y jouait à l'époque sur PC.
Ouais, mais ça t'empêchera pas de tomber contre des adversaires qui vont courir contre des murs alors que t'arrives dans leur dos, ou qui vont te spotter de nuit à 15 km. Bon voilà, bref,
bon,
c'est un peu dommage.
C'est pas
gagné
pour
lui.
Parce
qu'un jeu de ce genre-là, vraiment réussi, bien débugué, bien testé, ce serait génial. Ce serait vraiment
Ça arrive tout le temps. un jeu qui pourrait être bien. Et...
Vous verriez la tête de Pia à ce moment-là, le regard dans le vague.
Mais...
Ça arrive tout le temps. Il y a un peu de désespérance.
C'est triste. Non, mais des fois, c'est désespérant le nombre de fois où on a un bon pitch, des bonnes idées. Puis le problème du jeu, c'est qu'il faut y jouer. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, elle a raison, bien sûr.
Alors, est-ce que c'est le problème de DJ Hero qui lui aussi est sorti au mois d'octobre et qui lui est annoncé comme une grosse sortie, puisque Activision essaye, en tout cas souhaite en écouler 300 000 exemplaires rien qu'en France. À la fois, il sort sur toutes les plateformes.
Très cher.
Alors je pense qu'ils auraient difficilement pu faire beaucoup moins cher non plus, parce qu'un jeu aujourd'hui ça coûte
70
euros
dire, ouais.
La platine est super réussie quand même,
oui, c'est vrai.
Et le jeu sera à 99 euros. En revanche, l'édition collector à 200 euros,
c'est
vraiment pour les fans, mais elle est très belle, mais c'est pour les fans, c'est 200 euros.
Non, mais c'est bien qu'il nous change un petit peu d'univers. Voilà, il était temps quand même, parce que putain, franchement, Guitar Hero, mais j'en ai marre.
Alors que moi je suis toujours sur le 5 comme une folle.
À ceux qui l'univers rock, etc., ne leur parle pas trop. Là, c'est essentiellement électro, hip-hop.
Ouais, ça rajeunit le public.
Et franchement, rajeunit, oui, peut-être.
Guitar Hero, surtout dans les premiers, ça avait vraiment un côté vieux routard du rock.
C'est un peu ça, ouais. Surtout dans les premiers.
Si t'as pas 35 ans,
t'as quand même des
mash-up
Queen,
je
sais plus quoi. Donc,
Daft Punk,
ouais, mais
Justice,
c'est un petit côté plus glamour, plus paillette, plus Ibiza. Pour
tous les cas, il est
ah oui,
il est plutôt réussi.
C'est
hyper intéressant.
Ibiza,
ouais, mais c'est hyper intéressant quant à l'image que ça donne pour un jeu vidéo.
Exactement. Moi,
c'est pas ma cam.
Moi, j'y crois. Je sais que moi, personnellement, il me fait un peu mal aux doigts, parce que c'est. Non, mais à force
Julien,
de
il manque de souplesse dans les doigts.
Oui, c'est ça. Oui. Ça dépend pourquoi, mais bon. Mais effectivement, il est super efficace. Et puis, par exemple, les mix avec les Daft Punk, ils sont juste monstrueux. Il faut aller les débloquer. Hein, c'est plusieurs centaines d'étoiles. Mais une fois qu'on est 120, mais lorsqu'on y est, franchement, c'est que du bonheur quand on aime les Daft. Allez, un autre jeu. Oh là là, on va passer très vite dessus, parce que vous en avez entendu parler tellement sur Gameblog. Uncharted 2.
Ouais.
Allez. C'est notre coup de cœur du mois d'octobre, forcément.
Enfin, maintenant, parce qu'on a eu le test quand même très en avance. Maintenant, tous ceux qui ont pu y jouer, vous êtes bien tu là, hein ? Ça tue la gueule vraiment, hein ? Alors, voilà, c'était juste, je voulais juste dire
le
ça.
Le podcast, c'est notre moyen de répondre.
C'est ça.
C'est notre tribune libre.
Ah, il faut.
Allez, on va conclure ce podcast avec les actus marquantes du mois d'octobre. Et forcément, c'est arrivé en fin de mois. La DSi LL sortira le 21 novembre au Japon. L'équivalent de 145 euros. Alors, c'est une nouvelle DSi. Elle arrive très vite après la DSi, justement, 6 mois après. Et avec des écrans bien plus larges, 4,2 pouces. C'est quand même 93% de plus que pour la DS Lite. Mm-hmm. C'est vraiment gigantesque. Puis avec des coloris tellement funky,
mais
11 de noyer et
qu'est-ce
compagnie.
Justement, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'elle sort...
Écoutez, Julo.
C'est pour ça qu'elle sort si proche, alors que les ventes sont encore dans une bonne dynamique, etc. C'est suite à des études de Nintendo, grâce auxquelles ils sont aperçus qu'il y avait un public senior qui avait un problème avec la taille de la console, et notamment donc des écrans. Donc c'est parti de là, parce que les mecs, quand t'as pas de bons yeux...
Les papis et les mamies, ils ont des gros doigts.
Oui, quand t'as pas de bons yeux, etc., c'est difficile de lire les trucs sur les petits écrans, etc.
D'où le choix de coloris.
Et les choix de coloris, évidemment, sont issus de cette même réflexion. Donc plaire aux seniors. Donc c'est pour ça que t'as des couleurs un peu.
Mais
comment
tu disais dynamique.
En gros, c'est dire que les seniors ont forcément des goûts
non,
de naphtaline.
Non, c'est classique. Le rouge vin, il est un peu moche sur les photos, mais le marron chocolat.
Voilà, ça va bien dans ton petit sac en cuir.
C'est très
chocolat que j'aurais dit, mais
moi non plus.
Mais tu parlais de la dynamique, elle est quand même légèrement en baisse. Puis au Japon, ils ont quasiment tellement saturé le marché, mais dans le bon sens, hein, quasiment tout le monde en a, que du coup, il n'y a plus que ce public, quasiment, le public senior, qui doivent réussir à toucher.
Ouais, de toute façon, le but de Nintendo, c'est évidemment de toucher absolument tous les publics. Ils touchaient déjà les seniors avec le DS, mais bon, voilà. L'étude ayant fait ressortir ça, voilà. Elle sortira en tout cas aussi donc en Europe, tu l'as dit, aux États-Unis, peut-être sous le. Moi j'ai vu deux trois news qui parlaient plutôt d'un nom DSi XL, voilà, qui nous parlerait plus que LL.
Ouais, LL, oui.
Ouais, ça parle plus au japonais. Dans tous les cas, voilà quoi. La différence, je sais pas si vous avez vu donc la vidéo,
c'est gigantesque,
ouais, c'est
vous pouvez
énorme,
la voir
ouais.
dans une news sur Gameblog.
C'est
vraiment
portable.
Impressionnant de voir New Super Mario Bros là en si grand quoi. C'est la console est vraiment énorme. Tout comme son stylet d'ailleurs.
Ce qui est énorme
aussi,
c'est
stylet, ouais.
C'est la guerre. Oui, il y a deux stylets d'ailleurs.
Ouais,
le
deux
stylet normal
gros
et le grand
et
stylet.
Le grand, ouais.
C'est ça. Bah, ce qui est énorme, justement, aussi, c'est la guerre qui est en train de se mener entre Sony d'un côté et Micromania de l'autre.
Ouais, la distribution en général.
Ouais, ouais. Mais alors là, c'est vraiment. Là, c'est, ils ont sorti les.
L'artillerie lourde,
hein, ouais.
C'est la PSP Go qui a foutu
le
boxon.
Ouais. Alors là, c'est là, il y a quand même des annonces. Hein. Je vais vous les citer quand même. Le responsable de Micromania, Monsieur Pierre Cuilleret, qui dit quand même, c'est la PSP No Buzz, la PSP No Go. Les volumes sont d'une faiblesse rare et la demande est anecdotique. C'est du jamais vu. En gros, on s'en balance quand même plein la gueule. De l'autre côté du coup,
sachant
réponse...
qu'il a fait ses précommandes deux jours avant la sortie,
c'est
faut peut-être
ça,
pas s'étonner.
Voilà, avec carrément, mais même commandes de dernière minute, des menaces de refus de vente, des campagnes de dénigrement dans la presse. Enfin, du coup, les réponses de Georges Fornel, président de Sony Computer Entertainment France, sont elles aussi assez virulentes. En gros, il dit que la PSP Go ben, va aller chez des revendeurs habituels, mais aussi dans de nouveaux styles de boutiques,
comme Orange,
chez Orange voilà. Par exemple.
Orange.
Voilà, et que c'est un nouveau business model. Et en gros, pour l'instant, Sony est très content des ventes. Hein. Ils en ont écoulé plus de 10 000. Ils sont un petit
c'est
peu en avance.
Ouais, ouais, y a des sources un peu contradictoires, mais ça tourne autour de 10 000. Ouais.
Et je peux vous dire, en tout cas, qu'il y a quelques jours, en Micromania Game Show, la stand de vente où on achetait tous les produits Micromania était juste en face du stand Sony et qu'on sentait une espèce de petite tension, des petites piques qui étaient lancées comme ça. On sent que c'est pas encore.
Quand tu passes dans l'allée.
Ouais, c'est pas calmé encore, c'est pas vraiment retombé.
Hein. C'est normal, attends, il se déchire par lettre ouverte interposée, c'est rare. Mais au-delà de l'histoire spécifique de la PSP Go qui est déjà assez navrante par rapport à la distribution qui est tellement flippée de la dématérialisation.
C'est assez minable, moi je trouve en fait. Ouais.
C'est aussi ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il y a derrière sur les autres types de dématérialisation, type par exemple les jeux sur le Xbox Live, la fameuse gamme des Games on Demand. Quand on se plaint, nous, du prix des jeux, à juste titre, parce que tu les achètes en boutique, en bundle, pour moins cher, neuf, que sur le Xbox Live, alors avec ta boîte, etc., c'est pas fondamentalement de la faute de Microsoft, c'est juste qu'ils ont des accords avec la distribution et qu'ils ne peuvent pas vraiment faire autrement. Et c'est la distribution qui leur fout la pression. Donc l'avantage numéro 1 qu'on attend de la dématérialisation, c'est-à-dire la baisse de prix du jeu au global, et ben finalement on n'est peut-être pas prêt de l'avoir tant que la distribution s'accroche à ces modèles et emmerde la planète entière, parce qu'il faut être clair, la distribution emmerde la planète entière.
Bah, globalement c'est un peu ce que dit Georges Fornet en tout cas sur le fait qu'il faut évoluer, puisqu'il le dit hein, la technologie évolue vite, les attentes des consommateurs également, et il faut savoir s'adapter, avec un gros clin d'œil à Micromania
énorme.
En leur disant il est temps de bouger les gars.
Non,
sinon...
je crois qu'il leur dit il est temps de mourir.
Ça, en tout cas pour le patron, il est temps de vendre très vite.
Donc ça serait bien que ça se débloque, parce que sinon ça va faire comme le CD et on va finir à pas... Enfin, rappelez-vous le CD à l'époque, c'est oui, vous allez voir, ça va coûter vachement moins cher que les cassettes. Il aura fallu des années avant que ça baisse de prix. Hein.
On est assez d'accord. Puisqu'on parle de choses avec un petit peu de tension, bah, allez, on va sourire en compagnie de notre amie Nadine Morano.
Ah,
oui. Ah bah oui, Nadine Morano, avec ce magnifique article dans Paris Match, plusieurs doubles pages, où on la découvre soudainement dans son beau salon où elle élève ses trois enfants. Toutes seules, des enfants âgés de 13, 18 et 20 ans, et qui jouent à GTA 4. Je vous rappelle, un jeu qu'elle avait cité de violent, amoral et potentiellement addictif, avant d'en appeler à la vigilance parentale. Alors là... soudainement bah, tout le monde s'est engouffré dans la brèche, et pas que les médias jeux vidéo hein. On en a parlé à peu près partout. Alors justement, Nadine Morano a dû en parler, a expliqué que justement elle jouait avec ses enfants qui sont mineurs pour certains et qui du coup ne devraient pas jouer à ce GTA qui est déconseillé aux moins de 18 ans pour leur montrer à quel point c'était du produit.
Je pense
subversif.
Que Julo va faire pareil, il va montrer à Aiko un petit peu le porno, etc. pour
c'est
être sûr qu'elle...
C'est ce que j'allais dire.
Pour lui dire c'est pas bien.
Voilà, c'est pas bien. Tu vois ça ma fille, c'est pas bien. Voilà.
Mais en même temps, le lectorat de Paris Match... La presse n'aurait pas immédiatement relayé ça. Le lectorat de Paris Match, il n'aurait pas, il aurait rien capté. Hein. Bah, GTA, il n'est pas si évident que ça. Enfin, moi, disons que ça ne m'étonne pas particulièrement.
Non,
après,
mais tu
ça me fait rigoler.
Attends,
hein.
Faut savoir que c'est des photos commandées quand même.
Voilà,
hein. C'est-à-dire que c'est elle qui pose devant un photographe et elle donne son accord sur chacune des photos qui passent dans les magazines.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas ce que c'est GTA 4. Moi, je trouve ça excellent.
Ouais.
Moi, j'adore.
Enfin bon, moi, ne faisons pas de politique sur Gameblog global, mais... Mais voilà, chacun pensera ce qu'il voudra.
En fait, c'est pas de la politique, là, je pense. On est au-delà de la politique.
Bah, c'est une personnalité politique, hein, donc à partir du moment où tu la vois dans le jeu vidéo, c'est un petit peu comme Morrissey. C'est-à-dire que tu
Justement, moi, c'est là où je voulais en venir. C'est que je trouve, en tout cas, que de l'autre côté, on a un Frédéric Mitterrand qui lui va au festival du jeu vidéo
et qui joue à Guitar Hero,
qui joue à Guitar Hero, qui a des propos
qui a l'air de s'éclater surtout.
Ah bah carrément avec les hôtesses hein, de Guitar Hero principalement.
C'est pas vraiment les hôtesses qui m'intéressent.
Mais non, mais qui a des vrais propos intéressants sur le jeu vidéo de l'autre côté aussi,
sur la diabolisation du jeu vidéo et essayer de faire sortir
Nathalie Kosciusko-Morizet qui est aussi positif en tout cas, qui est elle concernée par le média jeu vidéo.
Oui,
ouais, mais moins elle est moins naturelle qu'un Mitterrand quand même, je trouve moi.
Kosciusko-Morizet.
Ouais, c'est-à-dire que parce qu'elle fait des vannes aussi bien avant, on se souvient de la vanne
sur les geeks.
Ouais,
ouais, ça va.
Elle est pas très à droite non plus quand même. Hein. Pas très à droite, j'entends l'objectif.
Ouais.
Pas très à droite, pas à la gauche, tu vois, à droite.
Non, mais enfin, on les sent en tout cas beaucoup plus au courant que Nadine Morano et il serait temps quand même pour une secrétaire d'État chargée à la famille et donc finalement ça touche bien évidemment
qu'elle
les enfants.
Qu'elle joue à iPad, quoi, merde.
Mais c'est ça, et se rendre compte un petit peu de la diversité du jeu vidéo. Et
qu'elle joue à iPad un coup.
Et qu'on évolue un petit peu de ces clichetons avec GTA et compagnie qui ne sont que reliés constamment à la violence. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et on rappelle, ce sont des jeux qui sont déconseillés, non pas interdits. Et dans tous ces jeux-là, on ne vous demande pas non plus constamment de tuer des gens. Il faudrait commencer à sortir un petit peu de ses ornières. Voilà, c'était ce que j'avais à dire en tout cas. On continue avec les actus marquantes. Vous l'avez vu, forcément, Bayonetta qui a connu beaucoup de rebondissements sur Gameblog pendant le mois d'octobre.
Des rebondissements fessiers essentiellement.
Exactement, bah, tout simplement parce que c'est un jeu 1 qui nous a tapé à l'œil, pour X et Y raisons.
Dans l'œil même.
Voilà, parce que le titre, bien évidemment.
En vrai, tu la kiffes aussi, Bayonetta, hein, ça va.
Oui, mais moi j'en ai marre des news sur Bayonetta.
D'accord, bah, on arrête alors.
Elle a joué 2 minutes à Bayonetta et elle a dit que c'était son prochain cosplay.
Ah, mais t'es pas balancé. Non. Allez, non, j'adore Bayonetta.
Tu l'adores, Bayonetta.
J'adore Bayonetta, c'est mon moi intérieur. Bayonetta, c'est... Non mais... Arrêtez de rire. Non mais c'est vrai, Bayonetta, c'est Cutie Oni en version sadomasochiste et
c'est gothique. C'est ça que tu es à l'intérieur.
J'adore, oui. Non, j'ai rien dit. Non mais j'ai adoré, j'en riais de plaisir. Bon maintenant, on a quoi? On a une news tous les 2-3 jours sur les tenues secrètes de Bayonetta.
Eh bien,
Bayonetta
moi,
à la morphologie rêvée, Bayonetta à l'arrêt des fesses, Bayonetta... Bon,
eh bien,
ça va,
j'aimerais
quoi.
Recentrer le débat, Pierre, justement, sur la qualité même du jeu, puisqu'on a pu recevoir une version,
oui.
Et que justement, on a particulièrement apprécié. Sauf que, rappelez-vous un petit peu, nous, quand on était au Japon avec Julo, on a rencontré les développeurs, on a rencontré aussi des journalistes japonais, et eux nous disaient, Bayonetta, on le conçoit pour vous, les Occidentaux. Et nous, on leur répondait,
ah bon.
Mais nous, on a l'impression que c'est un jeu typiquement japonais. Alors,
ouais,
qu'est-ce que vous en pensez?
Et là, on s'est dit, merde,
moi,
il va se planter.
Moi, je trouve
qu'est-ce que t'en penses,
bah,
tu penses que ça peut marcher?
Est-ce que ça va marcher? Ouh, bonne question. Bonne
moi,
question
je suis
parce
sûr que ça va
alors,
cartonner.
Alors, attendez, le truc, c'est qu'il est quand même beaucoup plus difficile à jouer d'une belle façon, je trouve. Alors, attendez, il est bien pris en main, hein, qu'un Devil May Cry, parce que dans Bayonetta, et moi, c'est ce qui m'a vraiment charmé, au-delà du côté Magical Girl, voilà, ce que
on
j'ai adoré,
que
c'est le concept, voilà, c'est le concept des combos avec un timing quand même assez
ouais,
serré.
Ouais, c'est
hein.
Aride. C'est,
oui, il a ce côté ultra japonais.
Mais en même temps, c'est super accessible.
Et en même temps, on peut se foutre totalement des combos, appuyer comme un débilos sur tous les boutons. Et c'est beau, il se passe plein de trucs à l'écran, c'est jouissif. Bayonetta avec ses cheveux, moi j'adore.
Non, mais moi, je pense que ça va faire au moins autant que Devil May Cry 4 ou 5. Le dernier c'était 4.
Va y avoir du buzz, va y avoir de la
mais
réaction.
Vous pensez que ça peut dépasser le cadre des gamers?
Moi j'ai impatient de voir un peu comment ils vont gérer tout l'aspect pub et compagnie, le marketing autour du jeu. Parce que là il y a des trucs énormes à faire. Et après, est-ce qu'ils vont le faire d'une manière un peu trop classique? Parce qu'il faut que les gens ils captent le message. Il faut que tout ce qu'on ressent en voyant le jeu, il faut que les gens soient touchés de la même manière avec
glamour,
une simple pub, etc.
Pop,
c'est assez compliqué parce que Bayonetta c'est un délire total. C'est barré, mais c'est ça qui est drôle, mais c'est bien fait.
Et c'est sexy aussi,
avec...
mais voilà. Dans le bon sens, quoi.
C'est... Ouais, carrément. Mais c'est
rare les jeux sexy, ultra assumés quand même.
Il y a une vraie charge sexuelle dans Bayonetta. Moi, je pense que s'ils arrivent à le faire sur ça, il va se passer quelque chose.
Pour l'anecdote, moi, j'ai quand même vu il y a quelques jours au Micromania Game Show où j'ai à peu près passé ma vie là pour vous présenter Final Fantasy XIII à certains. un truc hallucinant, je passais dans l'une de mes rares pauses et j'ai vu un couple avec son jeune enfant, franchement, qui devait être âgé de. Allez, quoi. 55-60 ans facilement, et le père il passe devant Bayonetta, le stand, il regarde, j'ai vu ses yeux s'illuminer, et tout à coup il a fait à sa femme, Ça a l'air bien Bayonetta, je vais aller l'y jouer. Alors que son fils en avait rien à foutre. Ouais. Et vraiment, j'ai vu dans son regard le oula, c'est quoi?
Ah, mais c'est une petite coquille. Non, mais c'est
ça, comme quoi, ça a un impact quand même.
Il faut vraiment qu'il le mette à fond dans les boutiques, il faut que les gens le voient, tu vois, ouais, directement.
Il faut que les gens
tu regardes Bayonetta, c'est ça, moi, que je retiendrai, c'est qu'on a joué ici à la rédac. Tu regardes le jeu, tu t'es là en train de bosser à côté, tu peux pas faire autrement que regarder et surtout d'avoir envie de jouer, quoi.
Tu regardes ou tu mates?
Génial.
Tu fais les deux,
tu regardes et tu mates. Tu mates. Même moi, je mate. Mmh. Bayonetta.
Il faut savoir que chaque scène du jeu commence sur un gros plan du fessier de Bayonetta.
Ou de l'entrejambe, hein, carrément. Ou de
l'entrejambe. Écoutez, on sera bientôt... On se fixait hein, sur le succès ou pas. En tout cas, le jeu la sort là, hein, au Japon et puis en janvier chez nous.
Ah, au-delà de tout l'aspect sexy, machin, etc., ça reste quand même un jeu. C'est du gros niveau, quoi.
Ouais, ouais. Très, très excitant
la
à jouer.
Platinum Game
ouais.
A mis la barre assez haute. Mm. C'est clair. Et que face à un God of War 3, il va avoir un sacré gros combat. C'est dans deux registres différents. Il y en a un qui se prend ultra au sérieux, God of War 3, et l'autre qui est dans un total délire. Ouais. Mais c'est quand même deux gros jeux d'action. En tout cas,
le
beat'em all,
il revient
en force. Le beat'em all, il y a de quoi faire.
Ouais, on parlait de Darksiders tout à l'heure.
Darksiders, tout à fait. Dans Inferno, qui à mon avis va être un petit peu à la ramasse par rapport à cela. Non,
on verra.
On va bien voir. En tout cas, il y a une petite information aussi qui est passée quelque part un petit peu inaperçue, mais qui pourrait être assez intéressante dans les mois à venir. Ce serait l'arrivée d'un nouveau Prince of Persia avec Jordan Mechner qui a déposé un nouveau nom, Forgotten Sons. Et puis là, ça se précise un petit peu plus. On comprend que Ubisoft serait vraiment en train de développer un nouveau titre.
Ça paraît logique parce que le truc, c'est qu'ils avaient abandonné pour le jeu vidéo la saga des Sables du Temps, donc la trilogie qu'il y a eu sur PS2.
Dont le premier est un monument.
Et le premier est absolument cool. Absolu, mais il se trouve que le film qu'ils sont en train de faire. Ils étaient donc partis, dans une direction complètement différente avec le nouveau Prince of Persia.
Ils avaient changé toute la mythologie, en fait.
Voilà, ouais. Histoire de faire soit une nouvelle trilogie ou en tout cas une nouvelle série, etc. Mais là, le film.
Avec Jackie Gyllenhaal.
Merci.
Ah là là.
Que j'adore.
Qui est très bien.
C'est intéressant. Ton toit intérieur, Pia, qui parle là.
Non, c'est tout
ton toit intérieur,
c'est ton toit latex.
C'est tous mes mois.
Et donc, le film s'intéresse. Intéressant au sable du temps, voilà, le fait que maintenant y ait ce nom déposé, donc
Forgotten Sands.
Forgotten Sands,
Sables oubliés.
Apparemment, le film a l'air très très bien d'ailleurs.
Merci pour la traduction, Julien.
Pour ceux qui ont la chance d'en voir un petit peu,
en tout cas, ça paraît logique.
C'est marrant parce que moi j'ai des gens qui travaillent aux effets spéciaux du film
qui t'ont dit que
c'était la merde. M'ont dit oh mon dieu,
ah bon,
merde, oui. C'est vrai. Et donc, pourtant, Jack il a bon goût pour les films. On se rappellera de Donnie Darko, Brokeback Mountain, très très belle filmographie.
Donnie Darko, qu'est-ce que
c'est? Détention secrète.
Eh ben écoutez, on verra. Hein.
On multiplie les digressions là.
En tous les cas, a priori, ça sera bien produit. A priori.
Il y a le gros trailer qui arrive en tout cas là très bientôt puisqu'il va être projeté avec la sortie de 2012, la fin du monde. Elle
encore
arrive.
La fin du monde.
Ouais. Et en tout cas, c'est la fin de ce podcast.
Voilà. Jolie transition.
Oui. Puisque on vous parlera bientôt dans d'autres podcasts, dit bien de nos impressions et des gros tests, des énormes jeux qui arrivent là pour la fin d'année.
On va pas s'ennuyer.
Assassin's Creed 2, Modern Warfare 2, il y en a encore énormément. Vous allez voir nos sélections de Noël et puis revenir sur tous ces gros titres. C'est dans les podcasts à venir avec d'autres petites surprises, en tout cas pour ceux qui aiment par exemple la musique de jeux vidéo. Vous allez voir, les podcasts de Gameblog continuent dès la semaine prochaine, bien évidemment. C'est votre rendez-vous hein, tous les mercredis. D'ici là, eh bien, n'hésitez pas à commenter l'actualité sur les forums. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, jouez bien.
En restant
surtout,
cool.
Portez-vous bien. Ciao.
Ciao.
Salut, à bientôt.
Forza Motorsport 3 en exclusivité sur Xbox 360 vous a présenté le podcast de Gameblog.fr.